Santé, santé mentale, bien-être émotionnel et histoires humaines. Les mots comptaient, un podcast où l'on soigne tout simplement ce que l'on tait. Bonjour à tous, vous qui êtes à l'écoute de la radio de Génin, je suis Délivrance T et c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans un nouveau numéro du podcast Les mots comptaient. Ici, nous parlons de santé physique et de santé mentale, nous parlons de bien-être émotionnel et nous essayons de mettre les mots sur les douleurs, petites ou grandes, que nous traversons au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire qui fait qu'on va retrouver des cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. L'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Selon l'OMS, cette maladie touche 10% des femmes en âge de procréer. J'accueille donc aujourd'hui Nadège, qui est une endogirl. C'est un terme désigné pour les femmes qui sont atteintes de l'endométriose. Nadège va nous parler de la maladie, de ses débuts, de son errance médicale et tout simplement de sa vie avec l'endométriose. Accueillez avec moi Nadège. Bonjour Nadège, bienvenue.
Merci, bonjour. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas?
Ça va.
Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation pour parler de l'endométriose. Est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît?
Je suis Nadège Adigoum. Je suis une patiente experte en endométriose. Je suis microbiologiste. Quoi d'autre à dire? Présidente de l'association Endométriose et nous, auteur d'un livre Endométriose, un livre pour nos jeunes filles. Bon, voilà un peu pour ce qu'on peut dire de Nadège Adigoum. Voilà.
Ravie de t'avoir, Nadège Adigoum. Alors, si tu dois décrire l'endométriose à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, avec tes propres mots, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais tout simplement que l'endométriose, c'est avoir les règles en dehors de l'utérus.
D'accord.
Tout simplement. Parce que c'est des cellules semblables à celles de l'endomètre qui se retrouvent ailleurs dans l'organisme. Et à chaque fois que vous avez des règles qui s'évacuent, vous avez des règles dans d'autres endroits de votre corps, mais qui ne peuvent pas s'évacuer. Donc l'endométriose, tout simplement, c'est avoir des règles en dehors de l'utérus.
Des règles, des saignements donc en dehors de l'utérus.
Ouais.
Ok. Et quand je te dis à toi endométriose, à quoi est-ce que tu penses? Des mots, des sensations, des images, voire des souvenirs, des choses que tu associes avec quand tu entends endométriose?
Quand j'entends endométriose, la première des choses, c'est les pleurs, les larmes, les douleurs. C'est la douleur au quotidien. C'est l'incompréhension. C'est le regard des autres sur toi. Quand chaque mois, tu deviens une personne anormale ou un phénomène de foire.
Oh.
Voilà.
Carrément un phénomène de foire.
Oui.
Quand tu as des crises en public ou quand tu dis phénomène de foire, je veux dire même avec l'entourage.
Même avec l'entourage. Parce que quand tu n'es pas dans la norme, tu ne corresponds pas du tout à ce que la norme veut qu'une femme soit. Tu deviens un phénomène de foire, même avec ton entourage.
Oui.
C'est comme ça.
C'est difficile à entendre.
Mais c'est la réalité.
Mais c'est la réalité, oui.
On s'y habitue.
Oui. D'accord. Comment est-ce que ça a commencé pour toi, l'endométriose? Est-ce que ça a commencé avec tes premières menstruations?
L'endométriose, pour moi, ça a commencé avec, on peut dire, avec mes premières règles, parce que j'ai eu mes premières règles à 11 ans.
Oui.
La toute première fois, il n'y avait pas de douleur. Bon, je n'avais eu que quelques gouttes. Et après, quand les règles ont dû revenir, ça a été très violent.
La deuxième fois?
Oui. Oui. Mais c'est la toute première fois, je ne la compte pas, puisque c'était juste quelques gouttes de sang.
D'accord.
C'était juste des traces.
Saigner,
voilà, je n'ai pas vraiment saigné. Donc, quand j'ai vraiment saigné, c'était l'horreur. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas marcher. J'avais tellement mal que j'étais pliée en deux. Et c'était bizarre, parce qu'à la maison, j'étais la dernière à avoir eu les règles, donc tout le monde avait ses menstrues. Et c'était bizarre de me voir, moi, pliée en quatre, sans savoir. On ne pouvait pas me toucher, on ne pouvait pas me relever. Finalement, on s'est retrouvé aux urgences. Et ça a été ainsi chaque mois. Chaque mois. Après cette première fois, toutes les fois où c'est revenu, c'était les douleurs. Donc j'ai commencé à 11 ans déjà avec mon périple chez les gynécologues. Et bon, voilà.
Donc ça veut dire que personne dans ta famille ne souffre d'endométriose. Parce que tu as dit que tu es la dernière et c'est toi qui étais pliée en quatre et ce n'était pas le cas pour les autres, c'est ça?
Toutes les autres de notre fratrie avaient leurs règles sans douleur. Elles peuvent faire leurs règles sans que personne ne sache. Voilà. Il y a une autre qui avait des règles douloureuses, mais dès qu'elle prenait de l'ibuprofène, ça passait chez elle. Donc j'étais vraiment le phénomène, quoi. On ne comprenait pas pourquoi. Mais après, quand j'ai su ce que c'était que l'endométriose, j'ai essayé de me renseigner, de voir. J'ai des tantes, aussi bien du côté de papa que du côté de maman, qui avaient ces symptômes-là et qui ne savaient même pas que c'était une maladie. Bon, des douleurs au point où on ne peut pas sortir. D'accord. Oui, il y en a.
Donc, elle se disait juste...
C'est des règles
douloureuses. C'est censé faire mal, chose comme ça.
C'est normal.
D'accord, d'accord. Et est-ce que tu avais mal en dehors de tes règles?
Au début, non.
Au début,
Au début, c'était juste pendant la période des règles. Et avec le temps, la douleur s'est étalée de 3 jours. C'est passé à 5, ensuite à 1 semaine avec les années. Quand j'avais 17 ans, je me rappelle, je faisais 2 semaines à la maison. Oui. Ça voudrait dire qu'avant les règles, j'étais déjà à terre. Et pendant la période des règles et quelques jours après. Donc, je passais 2 semaines à la maison. À 17 ans, j'étais en terminale. Je préparais mon baccalauréat. Donc, imagine.
Oui, j'imagine. Voilà. Je vais revenir un peu sur ça après. Est-ce que tu peux décrire tes symptômes? Pas forcément au début, mais tout le long des années, les symptômes que tu as.
Oui, je vais dire que les tout premiers symptômes qui se sont manifestés, c'était les douleurs. Les dysménorrhées. Et là, c'était des douleurs tellement intenses que même quand on te fait des injections, on attend que ça se calme. Le médecin est surpris de voir que ça ne passe pas.
Des antidouleurs.
Voilà. Oui. Non, là, on ne parle même plus des antidouleurs, mais déjà à un moment donné, déjà à 15 ans, j'étais tout le temps à l'hôpital, quoi. C'est quand, dès que ça commence, on t'amène, on te fait des soins. Et malgré les injections, ça ne passait pas. Donc, c'était le premier symptôme qui revenait à chaque fois. Et après celui-là, il y a eu l'endobélie, où mon ventre gonfle. Okay. Mon ventre gonfle. Et dès que les règles viennent, le ventre gonfle comme celui d'une femme enceinte. Et quand ça s'en va, les règles se terminent, les douleurs s'amenuisent. Le ventre aussi se dégonfle. Vous voyez. D'accord. Un peu. Donc, après ce symptôme-là, j'ai eu aussi des douleurs lombaires qui irradiaient juste dans les jambes. Parce que à l'approche, dès que tu avais des contractions, tu ne pouvais plus marcher. Tu avais ton dos qui te faisait tellement mal que tu te posais une tonne de questions. Après ces symptômes, il y a eu la diarrhée.
La diarrhée.
Oui. Quand ça a commencé à être beaucoup plus avancé, je faisais la diarrhée, je vomissais. Donc, c'était déjà à partir du moment où je faisais 3 semaines de douleur dans le mois. Et c'est 3 semaines de douleur, 3 semaines de diarrhée, 3 semaines de vomissement. Au point où tu peux t'évanouir de douleur, tu perds connaissance à cause de la douleur. Voilà. Donc voilà à peu près les signes que moi j'ai eus. Et ce n'est qu'après ça que s'est ajouté les douleurs pendant les relations sexuelles. Parce que bon, le temps que tout cela ne se mette en place et que je me mette un jour en couple, C'est après ça que j'ai su que j'avais mal pendant les relations sexuelles.
J'ai aussi. Voilà. D'accord. Donc, les symptômes que tu as évoqués, le gonflement du ventre, je ne sais pas, tu peux me rappeler le terme?
Endobélie.
Endobélie.
Ou endoventre, c'est le ventre de l'endométrieuse. Voilà.
D'accord. Donc, c'est un symptôme qui va venir comme un syndrome prémenstruel où ça arrive avec la venue des règles.
Ça arrive avec la venue des règles.
Oui, donc tu as un ventre de femme enceinte.
D'un coup, oui. Tout d'un coup. Oui. C'est pas que c'est... C'est juste que ça vient d'un coup, mais parfois, ça prend du temps avant de repartir. Mm-hmm. Ça peut prendre peut-être une semaine avec le temps, mais il y a des fois où juste après l'arrêt des règles, en même temps, ça part. Ton ventre dégonfle automatiquement, comme s'il n'y avait rien.
Et c'est toujours le cas maintenant? Tu as toujours ce symptôme maintenant?
Oui, toujours.
Toujours.
Toujours. Oui. Mais ça, c'est l'un des symptômes les plus difficiles à gérer avec l'endométriose.
D'accord. Tu peux m'en dire plus? À cause du regard des autres?
Juste, non seulement le regard des autres, mais le regard de tes parents. Imagine, la première fois que j'ai eu ce symptôme, je devais avoir 16 ans. Et quand ça a commencé à revenir, j'avais 17 ans, j'étais en terminale. Et un jour, mon papa, il avait 3 femmes. La troisième est venue lui dire, écoute, ta fille est enceinte. Tu ne la vois pas? Regarde son ventre. Son ventre, il est... Et tu vois ses seins. Et c'était le premier jour des menstrues chez moi. J'étais en plein... dans la douleur. J'avais pris une tonne de médicaments parce qu'à un moment donné, je ne disais plus rien à personne. Je ne voulais plus qu'on dise qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, j'avais acheté plein de médicaments que j'avais stockés dans ma chambre. Je ne dis plus rien. Je ne te demande même plus avant d'aller à l'hôpital. Rien du tout. Je me levais, j'allais faire mes soins, je revenais toute seule. Donc, le jour-là, j'avais avalé plein de médicaments, mais ça ne passait pas. C'était à midi. Et quand papa m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà, ta maman vient de dire que tu es enceinte et je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Oui. J'étais en plein dans la douleur, quoi. J'avais immensément mal. Et bon, j'ai eu comme un coup violent. Oui. Je ne m'attendais pas à ça, quoi. Mon premier réflexe, ça a été, je suis rentrée de l'école, j'avais mis un pain, parce que pour aller à l'école, je prenais des médicaments tout le temps, H24. Oui. Je pouvais prendre des antalgiques jusqu'à 4-6 fois dans la journée pour que personne ne sache que j'avais mal. Donc, j'avais enlevé ma tenue, j'avais mis un pain. J'ai juste enlevé le pain, j'ai fait descendre mon slip et je suis restée debout, juste comme ça. Maintenant, dites-moi, dans une telle condition, comment est-ce que je suis enceinte? Je ne connais pas d'homme, je souffre là actuellement, j'ai mal. Et voilà, voilà la récompense que vous me donnez en plein midi. Donc, j'étais restée là, figée, mon papa ne savait plus quoi dire. Et il m'a remis le pain, il m'a pris, il m'a dit non, c'est bon, ça va aller. Mais personne ne comprenait, moi-même je ne comprenais pas que c'était un symptôme, je ne comprenais pas, je ne comprenais rien du tout. Juste que je savais que ça allait gonfler, quand le moment venu ça allait dégonfler aussi, voilà.
Donc tu t'attendais à ce que ça arrive et autour de toi, personne ne se rendait compte?
Personne ne comprenait, parce que je ne disais plus rien à personne. À partir de l'âge de 15-16 ans, j'avais décidé de ne plus parler de mes douleurs à qui que ce soit. Quand vous souffrez et qu'on ne vous comprend pas, et qu'on pense que vous êtes la fille à papa, celle qui gaspille l'argent pour aller tout le temps à l'hôpital, quand vous êtes celle-là qui est vue comme paresseuse, même si elle est la première à l'école, elle ne veut pas faire les tâches ménagères, donc elle est paresseuse. Parce que tu as mal, tu ne peux pas te lever. À un moment donné, tu te dis, c'est même pas la peine de dire à qui que ce soit. Quand on te demande, je dis, à 16 ans déjà, moi je te dis, je vais bien. Je mets un sourire sur mon visage, tu me demandes qu'est-ce que tu as. Non, je vais bien. J'ai mon sac, j'ai de l'eau dans mon sac, j'ai mes comprimés. Je les avale à tout bout de champ. Mm-hmm. Mais personne ne sait. C'est juste mon papa qui, de temps à autre, peut-être quand les autres s'endorment, moi, je suis là, je travaille jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin pour récupérer le retard que j'ai au cours. Oui. Et c'est là où il vient me dire, non, va te reposer un peu, ceci, cela. Mais en dehors de ça, bon, écoute, papa, j'ai besoin de ci. Je prends l'argent, soit je prends moi-même mon petit déjeuner, j'achète mes comprimés, je n'attends plus personne. C'est quand c'est trop, avec mes comprimés, que je ne supporte plus. Là, on est obligé de m'envoyer à l'hôpital, c'est peut-être là. Sinon, au cas contraire, je passe par des cliniques, je fais mes soins, je rentre à la maison.
Donc, tu as traversé toute cette période en étant seule, j'ai envie de dire. Donc, il n'y avait personne avec qui tu pouvais en parler, tu pouvais parler de tes douleurs. Et quand tu allais à l'hôpital, est-ce que tu parlais avec tes médecins, gynécologues? Tu essayais de parler avec eux?
Il faut dire qu'au départ, c'est maman qui m'a menée à l'hôpital quand j'avais 11 ans. Maman, et elle était infirmière en pédiatrie. Donc, dès que papa l'a appelée pour lui dire que j'avais des problèmes avec mes menstrues, elle m'a menée voir un gynécologue. Donc, on a essayé de suivre un traitement. Ils m'ont prescrit un traitement. Bon, au bout de 2 mois, ça ne marchait pas. On a dû changer encore pour aller voir quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où maman, elle était ici. Moi, j'étais à Cotonou avec papa. Je n'étais pas ici. D'accord. Donc, il fallait venir ici chez maman. À un moment donné, moi, j'ai dit non, ce n'est pas la peine. Mm-hmm. Parce qu'à chaque fois que tu te déplaces, tu viens. Elle va t'emmener ici. Mais chaque mois, papa, lui, il est là, il guette. Il a un calendrier où il note les menstrues de ses filles. Il a beaucoup de filles, donc il note tout. Oui, justement, il note pour tout le monde. D'accord. Ce qui fait que quand tu as un retard, il le sait. Okay. Et quand, automatiquement, il le sait. Mais j'étais seule. Mm. Parce que chaque fois, on va te dire, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas. Mm. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mes menstrues, où j'ai mal. Tu as mal pourquoi? Je ne sais pas. Mm. Mais j'ai pas de réponse à te donner. Donc, dans la famille, c'est difficile. Tu te retrouves toute seule et tu dois faire face à tes responsabilités. Pour qu'on ne me traite pas de paresseuse, je veillais la nuit malgré mes douleurs pour être première en classe. Je ne veux pas qu'on me colle cette étiquette-là de fille paresseuse qui veut pas si...
Tu te trouvais des excuses pour ne pas faire les choses.
Alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que malheureusement, je suis malade, mais je ne sais pas ce que j'ai. Mais mon papa, malgré tout, il a essayé de chercher, mais pourquoi cette fille-là? Pourquoi chaque fois? Donc, à chaque fois, il essayait, quand il m'appelait, quand lui, il entend ma voix, il sait automatiquement que ça va ou ça ne va pas. Donc, quand il m'appelait, et il se disait, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut l'envoyer à l'hôpital. Il m'envoyait avec quelqu'un d'autre à l'hôpital, mais... c'était pas ça. Et lui, il s'est tourné vers les plantes, chercher quelle tisane, quelle solution trouver. Jusqu'à l'hôpital, on ne sait pas ce qu'elle a. Ils vont, on revient, on te dit non, mais tout est normal, c'est sûr. Elle n'a rien. Ou d'autres fois, on te dit malheureusement, elle est en train d'avorter, il faut la laisser souffrir là.
Les médecins?
Ben oui.
Les médecins disent ça?
Ben oui, je te parle de moi, je te parle pas de quelqu'un d'autre, je te parle de ce que j'ai vécu moi. Je devais avoir quel âge en ce temps? J'avais 16 ans. D'abord, à 15 ans, je suis allée pour une consultation, une énième consultation. Le médecin a voulu me toucher. J'ai dit non, que ce n'était pas possible d'examen clinique chez moi parce que j'étais vierge. Il n'a pas cru. Quand il a fait l'échographie, d'abord il a touché, il s'est retiré, il s'excuse maintenant. Et il dit, j'aurais pas dû. Mais tu as bien fait. Parce que, avec mes douleurs, j'étais censée avoir une infection à force d'avoir fréquenté des garçons. Oui. Donc, les douleurs que j'avais, c'est certainement le signe d'une infection. Donc, quand je lui ai dit que j'étais vierge, il ne m'a pas cru. Et c'est après qu'il s'est excusé. Ça, c'est le tout premier contact violent que j'ai eu avec des gynécos. La deuxième fois, j'étais allée là, j'étais vraiment... en pleine crise, que je ne pouvais pas marcher, mais le gynéco a dit non, que c'est un avortement que j'étais en train de faire à 16 ans. si j'ai même le temps avec mes douleurs de finir d'apprendre mes leçons pour aller chercher un homme pour tomber enceinte, pour faire avortement à 16 ans. Et m'a laissé poireauter. Là, il a fallu que quelqu'un d'autre intervienne une heure de temps après pour qu'on me prenne en charge et qu'on se rende compte que l'idiote n'était même pas enceinte.
Je sais que tu me racontes ton vécu. Je ne me mets pas en doute, mais je suis tellement choquée que je ne peux m'empêcher de répéter ces mots.
Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, parce que j'ai fait plus de 22 cabinets de gynécologie pendant le moment où je cherchais à savoir
ce qui se passait.
Voilà. J'ai fait plus de 22 cabinets de gynécologie, donc ce n'est pas une seule fois. Et là, j'étais encore assez jeune. Mais quand je suis devenue plus grande, quand enfin j'ai su ce que c'était que de connaître un homme et que j'ai su que j'avais les douleurs pendant les rapports sexuels, qu'il fallait retourner encore chez le gynécologue et tout ça, c'était tout autre chose encore. C'était tout autre chose. Donc c'est quelque chose qu'on vit vraiment seul. Même au milieu de la famille, tu es seul. Parce que tout le monde te voit comme quelqu'un qui occupe le temps des parents, qui occupe les finances des parents, qui se fait peut-être dorloter. Mais ce n'est pas le cas.
On pense que tu es un peu chichiteuse et on invisibilise tes douleurs
si
complètement.
Si seulement ils pouvaient savoir combien de fois j'aurais aimé pouvoir jouer quand ils jouent. Tu ne peux pas jouer avec tout le monde. Moi, j'aimais jouer au foot. J'aimais grimper aux arbres. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus. J'étais une fille casse-cou avant mes menstrues. Je grimpais au mur juste pour le plaisir d'aller m'asseoir au-dessus de la clôture. Moi, c'était ça, moi, mon plaisir. Je jouais avec les garçons, tout ce que les garçons font. C'est ça que je faisais. Mais à partir de ce moment-là, c'est fini. Ma vie a totalement changé. Je ne pouvais plus faire du sport. Je ne pouvais plus courir. Il y a des choses que je n'avais plus de vie, mais personne ne s'en rendait compte. Mais j'étais une fille, j'étais entre guillemets morte. Parce que je n'avais plus de vie, je n'avais plus de rêve. Je voulais juste avancer dans mes études pour montrer que je n'étais pas paresseuse, pour montrer que je n'étais pas une bonne à rien, pour montrer que je ne faisais pas du n'importe quoi, c'est tout.
Donc, en fin de compte, c'est ce moteur-là qui te permettait d'avancer dans
voilà.
ce moment-là.
Voilà.
Je dois prouver que ce n'est pas que cette ça. Étiquette qu'on me colle.
En fait, ce n'était que ça. Je n'avais plus rien, plus... Il m'arrivait dans le temps de chanter. J'étais dans un groupe à l'école, mais tu es tout le temps absente. Oui. Je me rappelle, une fois, on avait une compétition. J'étais à l'hôpital pendant 2-3 semaines. Et le jour où on devait faire la compétition, c'est le jour là où je revenais de l'hôpital. Ils avaient pris quelqu'un pour me remplacer. Mais quand je suis arrivée, on nous a mis toutes les deux, on a chanté. Ils ont dû m'envoyer, j'ai ramené la coupe à la maison. Donc, il y a des choses où tu as envie de le faire, mais ta santé ne le permet pas. Mais dans tout ça, il y a ces petits moments de joie que je garde. Et c'est des moments que je chéris. Et je voudrais quand même qu'il y ait plus de jeunes filles qui vivent ce que moi j'ai vécu. Qui, malgré la présence des parents, se sentent réellement seules. Moi, avec tout ça, la première fois que j'ai pensé au suicide, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Je suis revenue des cours. Et j'ai pris un couteau. Je me suis demandé. Mais écoute, Nadège, malgré tout ce qu'on dit, la biologie. Mais si on ouvre un tout petit peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur de ton ventre. On va prendre le couteau, on ouvre un peu, on va voir.
Oh, au niveau du ventre. Wow.
C'est la première fois que cette idée s'est imposée à moi. On va ouvrir, on va voir. C'est pas grave, tu vas mourir après, mais au moins tu aurais su ce qu'il y avait dedans.
Avant de mourir.
C'est quelque chose qui est quand même assez douloureux à vivre. Donc quand on me parle d'endométriose, moi je pense douleur, je pense stigmatisation.
Oui. Donc j'imagine que tes camarades à l'école n'étaient pas au courant, puisque tu ne pouvais pas en parler à la famille. Donc quand tu ratais les cours, à la chaîne comme ça 2 semaines par mois. Qu'est-ce que les camarades
pensent? Elle est malade, c'est tout. On pense qu'elle est malade parce que c'est une fille fragile qui est tout le temps malade. Donc,
ils ne demandaient pas.
Non, ils ne savaient pas pourquoi, mais on savait simplement qu'elle était malade, c'est tout. Parce que quand tu t'évanouis de douleur, personne ne sait. On dit juste, elle a piqué une crise.
Oui.
Mais une crise de quoi? Personne ne sait. Donc, dans la tête de tout le monde, c'est Nadège, elle est fragile, Nadège, elle est malade. Et puis, dans le temps, je ne pesais pas grand-chose. À mes 17 ans, je devais faire 26 kilos, 27 kilos au plus. Donc, j'étais vraiment chétive. Et c'est les hormones. Et il faut dire que j'ai aussi dû prendre des médicaments pour prendre du poids. Parce que je ne m'aimais pas.
D'accord.
Je ne m'aimais pas du tout. Avec la maladie, j'étais vraiment chétive. Quoi. Mmh. Imagine, jusqu'à mes 30 ans, je faisais 48 kilos.
Oui. Ça
48 kilos.
Beaucoup, oui.
Donc, j'ai dû prendre des médicaments pour sortir du regard des autres sur moi. Mmh. Elle est tout le temps malade. C'est peut-être parce qu'elle a le sida. Donc, c'est pourquoi elle est maigre, elle est chétive.
Oui, la stigmatisation,
c'est tellement de choses qui se disaient. Et ce n'était pas des gens loin de moi. Hein. C'était des cousins, des tantes. Et ça fait mal. Ça fait extrêmement mal.
J'imagine à quel point ça doit... Même pas les autres, mais ceux qui sont le plus proches, ceux qui sont censés te soutenir, c'est plutôt eux qui font ce genre de choses, qui disent ce genre de choses.
Ça fait très mal, ça fait extrêmement mal.
Finalement, le diagnostic a été posé comment? Comment est-ce que tu as su que c'était l'endométriose?
Finalement, le diagnostic a été posé par un pédiatre.
Un pédiatre?
Ouais.
Okay,
je suis retournée une énième fois. Là, je venais de perdre ma 3e bourse de thèse. En 2018, je venais de perdre la 3e bourse de thèse et je ne comprenais plus rien. Je n'avais même les 3 semaines, il me restait une semaine au moins normalement, mais là, même cette semaine-là a été grignotée par la maladie. Donc, je n'avais que quelques jours dans le mois pour pouvoir vaquer à mes activités, aller à l'hôpital, chercher ce qui n'allait pas. Et il y a un ami de la famille qui est pédiatre, Dr Choco, à qui je fais un coucou. Il était pour une formation en Chine. Le jour-là, il m'a appelé. Je revenais d'une énième consultation et je lui disais que sincèrement, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais que j'en ai vraiment ras-le-bol. Et il me dit, écoute, retourne voir ton gynécologue dès demain. Et demande-lui de reprendre les échos, de faire tout ce qu'il faut faire pour voir si tu n'as pas de l'endométriose. Et c'est là, la première fois, le mot est sorti. Mais il faut dire que déjà en 2017, j'avais entendu le mot, puisqu'il y avait des émissions sur les chaînes internationales. J'étais rentrée de Dakar et j'ai entendu, je me suis posée... Pendant un bref instant, si ce n'était pas ça que j'avais. Mais en même temps, je me suis dit non, ça ne peut pas être ça. Personne n'a dit que chez moi, c'est...
Donc, quand tu suivais l'émission, ça collait un peu avec tes symptômes.
Voilà, ça collait, mais bon, après, je me suis dit non. Puisque tous les médecins que j'ai vus jusque-là. Donc, c'est lui qui a dit, retourne voir le gynécologue, demande-lui. Je suis retournée voir le gynécologue. Il a fait 2h30. À faire les échos, à reprendre, sur tous les angles. Et finalement, il dit, j'aurais dû y penser.
D'accord. Là, on parle d'un gynécologue que tu consultais depuis combien de temps déjà?
Ça devait faire 3 ou 4 mois.
3 ou 4 mois.
Parce que j'avais changé de nouveau de gynécologue. Puis je ne trouve pas de solution chez toi. Je change pour voir si quelqu'un peut savoir ce que j'ai. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. Donc, à partir du moment où j'ai eu mon bac en 2006, déjà 2006 à 2017, j'ai fait 22 gynécos. Là, c'était moi-même, je cherchais ce qui n'allait pas. Donc, à partir de ce moment-là, quand je ne trouve pas de réponse chez toi, je vais ailleurs, tout simplement. Je ne faisais que changer pour voir la personne qui allait.
Est-ce que quelqu'un pourrait trouver une solution, une réponse?
Voilà. Donc...
Et donc là, il te dit,
j'aurais dû y penser.
Waouh. Qu'est-ce que tu as ressenti?
J'étais vraiment... j'avais envie de me jeter sur lui, de le déchirer. Oui. Parce que la veille, j'étais dans son cabinet la veille. Et il a fait des échos. Il a fait tout ce qu'il... Il me dit non, qu'il ne voit pas, à part des kystes, qu'il ne sait pas, qu'il n'y a rien. Mais c'est vrai qu'il y avait des kystes qu'il fallait opérer d'urgence parce que avoir l'état, ce qu'il voyait à l'échographie. Mais et le lendemain, quand notre médecin suggère de voir si je n'avais pas de l'endométriose par hasard, il me dit j'aurais dû y penser.
Ouais, si j'avais été là, je t'aurais aidé à le mettre en pièce parce que...
Mais wow. après, dans ma tête, il y a eu... Ouf, enfin, je ne suis pas folle. Enfin, j'ai vraiment quelque chose. Ce n'est pas dans ma tête. Ce n'est pas moi qui invente. Enfin. Et il a proposé m'opérer. Je suis partie, j'ai rappelé le docteur Choco et il m'a dit non, tu retournes voir un autre gynéco, je t'envoie vers quelqu'un d'autre. Et il va confirmer d'abord le diagnostic avant. Mais ça, j'ai dû attendre encore 3 semaines, le temps de passer par les douleurs, les diarrhées et autres, avant de retourner, voilà. Et quand je suis retournée, le gynéco, il était vraiment super. Il a pris tout son temps, il a refait les échos, il a tout fait. Et il a confirmé que j'avais de l'endométriose, mais tellement avancée que ce n'était pas donné à n'importe qui de m'opérer. Donc, il fallait que je trouve un spécialiste que lui-même qui me parlait, il ne pouvait pas me prendre en charge parce qu'il n'avait pas les données nécessaires pour traiter de l'endométriose à ce niveau-là. Donc, qu'il fallait me référer vers quelqu'un d'autre. Et en ce temps, celui vers qui on m'a référé ne pouvait être disponible qu'en 6 ou 8 mois après.
6 ou 8 mois?
Alors que j'étais déjà à une étape où c'était vraiment pas... Mon ventre était enflé H24, j'avais du mal à respirer. Et les douleurs étaient plus intenses. Et bon, moi, avec le temps, quand il y avait des douleurs, j'avais également de l'asthme. J'avais des difficultés respiratoires, donc c'était vraiment compliqué. Heureusement, on a pu trouver un autre spécialiste ici à Lomé. Donc, j'ai quitté Cotonou, je suis revenue ici à Lomé me faire opérer.
Donc, l'opération en question consiste en quoi? Qu'est-ce qu'ils enlèvent? Qu'est-ce qu'ils font exactement?
L'opération en question, qu'il aurait souhaité... En fait, pour traiter l'endométriose, on peut ouvrir totalement, ce qui n'est pas trop conseillé. Ou on peut faire une celluloscopie. Donc, la celluloscopie n'était pas maîtrisée par beaucoup. Même actuellement, ce n'est pas encore tout le monde qui maîtrise. Donc, elle consiste à prendre une caméra, à faire des incisions au niveau de ton ventre, à gonfler le ventre, à insérer la caméra, les instruments pour pouvoir t'opérer sans faire trop de dégâts. Donc, l'opération en elle-même consiste à enlever les lésions, les adhérences.
D'accord.
Parce que quand il y a des cellules semblables à celles de l'endomètre ailleurs, elles vont saigner, elles vont provoquer des poches de sang, parce que le sang là qui sera là ne pourra pas être évacué. Et au niveau de ces poches là, l'organisme va envoyer des agents pour nettoyer. Il y aura de l'inflammation. Ça va provoquer une plaie et ça va provoquer des adhérences. Les organes vont se coller entre eux. Certains vont être dans des positions un peu plus voilà, ce qui va provoquer toute la douleur et les symptômes qu'on a dit tout à l'heure. Donc l'opération va consister à essayer de détacher, d'enlever et de pomper le sang, de retirer le sang, d'enlever les lésions qu'on peut enlever. Il y en a qu'on ne peut pas enlever malheureusement.
Parce que c'est trop avancé.
Non seulement c'est trop avancé, mais c'est aussi risqué. Moi, après mon opération, le gynéco m'a dit qu'il y a des lésions qu'il a dû laisser. Sinon, j'aurais peut-être dû avoir une poche à caca parce que c'était, voilà, les zones où ça touche, il y a certaines zones où on ne peut pas aller enlever les lésions. Donc, tu fais avec. Et c'était vraiment, c'était joli. Hein. Moi, j'ai aimé la vidéo. Il m'a montré la vidéo.
La vidéo de quoi? De l'opération?
Ben oui, il m'a montré la vidéo. En fait, j'étais, en regardant la vidéo, j'étais hyper heureuse. Parce que là, tu vois l'étendue du désastre dans mon ventre, en fait. Tu comprends maintenant pourquoi? Je comprenais pourquoi j'avais mal. Je voyais, je pouvais voir avec mes yeux tout ce que l'endométriose avait fait. C'est comme une liane qui allait s'enrouler un peu partout, a rangé mes trompes, a fait tout ce qu'elle voulait. Et tu pouvais voir avec la vidéo, tu vois les parties noires, le vieux sang, les parties des lésions encore vivantes, bien rouges, des vieilles lésions, des adhérences qui ont blanchi. Tu vois le tout. Et là, tu te dis, mais oh Dieu merci, enfin.
En fait, la vidéo de l'opération, c'est un peu comme le fait de donner corps aux douleurs que tu as eues pendant si longtemps. Tu ne te sens plus invisibilisée, mais voilà la preuve que voilà, effectivement,
voilà
il y a un problème.
Voilà la preuve que je n'étais pas folle. Parce qu'à un moment donné, pour tout le monde, j'exagérais. Ce n'est pas possible d'avoir des règles et de s'évanouir. Ce n'est pas possible d'avoir ces règles, de ne pas pouvoir marcher. Ce n'est pas possible d'avoir ces règles et d'être cloué aux toilettes. J'exagérais. Donc, certainement, soit c'est une malédiction, soit c'est une infection, j'ai dû vivre n'importe comment. Et ça me faisait plus mal encore que tout ce qu'on pouvait dire, quoi.
Est-ce qu'il est arrivé des moments où toi-même, en sachant très bien que tu n'inventais pas, mais est-ce qu'il est arrivé des moments où tu te demandais si... Est-ce que c'est possible que je ne sais même pas
oui,
où j'en suis?
Évidemment. Évidemment qu'il y a des moments où tu t'accuses. D'abord, tu as honte de toi-même. J'aurais peut-être pu garder mes bourses de thèse si j'avais eu le courage d'expliquer à mon maître de thèse que voilà la situation que je vivais. Mais j'avais honte. Si mes parents ne me croient pas, quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'il va croire au fait que quand j'ai mes menstrues, déjà 2 semaines avant les menstrues, je suis à terre, incapable de faire quoi que ce soit. Et une semaine après, quand ça a fait les trois semaines dans le mois et finalement tout le mois, qui pouvait le croire? Donc j'avais honte. Dans ma tête, je savais que j'étais un phénomène bizarre. J'étais un monstre. J'étais pas normale. Donc, je n'arrivais pas à concevoir. Il a fallu que les deux, la face, posent le diagnostic pour que déjà, je me dis, ouf, je ne suis pas folle. Parce que tu as des opportunités que tu rates, personne ne comprend. Mais avoir des opportunités de ce genre-là, c'est pas donné à tout va. Mais moi, j'ai perdu 3 bourses pour faire le doctorat. Il faut voir le regard des autres. Mais attends, la fille,
elle est sérieuse.
Elle est folle, quoi. Ou bien elle se prend trop bien. Mais non. Et c'est là où toi-même, tu te... C'est pourquoi quand je regardais la vidéo le jour-là, ma maman ne pouvait pas supporter. Mais moi, j'avais une joie, un plaisir à regarder. Oui. Malgré que l'endométriose avait ravagé beaucoup de choses. C'était mon passeport, quoi, pour dire... Mais oui, voilà. Voilà, je suis pas folle. Voilà, il y avait vraiment quelque chose. J'étais pas maudite, c'était pas que j'étais une fille de mauvaise vie. Mais attends, tu as mal pendant les rapports sexuels. Même quand quelqu'un te parle, la façon dont je regarde, même quand quelqu'un me courtise, la façon dont je te regarde, c'est du genre, qu'est-ce que tu viens? Tu m'apportes juste souffrance, quoi. Qu'est-ce que tu viens chercher? Donc.
Oui.
Vous voyez un peu?
Oui, je vois. Et est-ce que tu as pensé à consulter un psychologue ou un thérapeute? Tu te faisais accompagner mentalement pour...
Est-ce qu'en Afrique, on a cette habitude-là de se faire accompagner du tout?
Non, on l'a pas.
On ne l'a pas. On nous dit souvent que c'est les faibles qui se font accompagner.
Absolument.
Et tout ça. Et puis, déjà que je ne sais pas ce que j'avais.
Oui, oui. Et là, maintenant, aujourd'hui, que tu sais ce que tu as et tout, est-ce que tu te fais accompagner?
Je ne me fais pas accompagner pour mon endométriose, mais je me fais accompagner pour autre chose.
Pour autre chose?
Ouais.
On peut en parler ou pas?
Je me fais accompagner suite au deuil de mon mari. Suite à la perte de mon époux, je me fais accompagner pour ça. Mais par rapport à l'endométriose, non. J'ai eu le temps d'encaisser beaucoup, 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 toute seule. Si déjà à 15-16 ans, je ne demandais plus à personne avant d'aller à l'hôpital. Oui. Imagine la carapace que j'ai eu à construire pour pouvoir en arriver là. Donc, par rapport à l'endométriose, non. Mais je suis plutôt un point d'écoute pour d'autres femmes.
Je suis souffre,
voilà, qui, voilà, je suis là, que ce soit à minuit, 1h, 2h du matin, tu m'appelles, je réponds. Et on peut parler, on écoute. C'est là qu'on est en train de penser à mettre dans l'association un psy pour pouvoir aider, surtout qu'il y a des jeunes filles qui sont dans ce cas-là, dans l'association. On se rend compte que c'est... Parfois, il faut même un pédopsychiatre.
Oui.
Donc, c'est ça. Sinon, moi-même, non.
Personnellement, non. Tu t'en... Je ne vais pas dire que tu t'en sors bien, parce que clairement, ça n'a pas dû être facile, mais tu t'en sors quand même, toute seule. Si tu devais adresser un message à une jeune fille qui, là, maintenant, elle ne sait pas qu'elle souffre d'endométriose, tu vois, un peu comme toi, elle a des douleurs, elle a ces différents symptômes, et autour d'elle, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Écoute ton corps. Il n'y a personne d'autre, à part toi, à part ton corps, qui puisse te dire la vérité sur ce que tu ressens. C'est impératif d'écouter son corps. Si à un moment donné, j'avais laissé tomber, j'avais arrêté de chercher et que j'étais arrivée à dire, bon, comme tout le monde le dit, je suis folle, je serais certainement devenue folle. Il faut écouter son corps, il faut écouter la douleur. Et il faut savoir que la douleur n'est pas normale. C'est un signal que ton corps t'envoie pour te dire que quelque chose ne va pas. Avoir mal, c'est un signal. Donc il faut apprendre à écouter son corps, il faut apprendre à écouter tous les signaux, il faut apprendre à se connaître. Donc, pour une jeune fille qui ne sait même pas encore qu'elle souffre de l'endométriose et qui souffre tous les mois, à partir du moment où la douleur t'empêche de vivre comme tout le monde, que tu dois devenir un super héros, une super héroïne pour pouvoir vivre comme tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Il vaudrait mieux te diriger vers un gynécologue, d'abord en parler avec tes parents.
Oui.
Et si tu penses qu'ils ne vont pas te comprendre, fais-moi signe.
D'accord.
Tu me fais signe, je les appelle, on en parle. Et là, je te réfère vers quelqu'un.
C'est l'association endométriose
et non. Voilà. Je te réfère vers quelqu'un qui puisse te prendre en charge réellement. Pas quelqu'un qui va... Parce que malheureusement, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir connu ça. Il y a des jeunes filles qui ont été opérées 3-4 fois avant l'âge de 15-16 ans. Parce qu'on ne savait pas ce qu'elles avaient. On pensait que c'était un kyste ou c'était autre chose, mais on ne savait pas que c'était de l'endométriose. Moi, j'ai eu la chance qu'on ne m'ait pas opérée comme ça. Mais malheureusement, je connais beaucoup de filles aujourd'hui qui ont été... Voilà, donc, sincèrement, ma chérie, si tu es dans ce cas... que tu as mal et que tes douleurs t'empêchent de vaquer à tes activités quotidiennes. Je t'en prie. Rapproche-toi de tes parents. Dis-leur que peut-être tu aurais de l'endométriose. Et s'ils ne veulent pas te croire, tu peux nous appeler. Je te laisse un numéro, le 96 06 84 81 ou le 70 91 12 12. Tu nous appelles, on verra comment t'aider pour leur faire comprendre qu'il y a réellement une maladie qui s'appelle endométriose ou encore une autre de ses sœurs ou toute autre maladie qui pourrait être à l'origine de ces douleurs-là. Parce que ce n'est pas seulement de l'endométriose qui provoque des douleurs extrêmement intenses pendant les règles. Ce n'est pas que l'endométriose et ce n'est pas que pendant les règles.
Et si tu devais adresser un message aux proches, aux parents, aux personnes qui ont tendance à dire peut-être que voilà, c'est normal, pendant les règles on a mal, qu'est-ce que tu leur dirais?
Je dirais, je vous en supplie, écoutez-nous. Écoutez-nous parce qu'on n'a personne d'autre que vous. La jeune fille, elle est seule, elle est fragile, elle est à un moment où elle doit découvrir des choses, elle doit apprendre et se projeter dans l'avenir. Donc on n'a que les parents. Et si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas en nous, si vous ne nous comprenez pas, on ne va pas y arriver. Oui. On a vraiment besoin de vous pour devenir les étoiles de demain. Donc, je vous supplie de croire quand vos filles vous disent qu'elles ont mal, elles n'inventent pas. Il y a personne qui aurait aimé passer ses journées à l'hôpital, passer ses journées dans la chambre clouée. Il y a personne. On aurait tout aimé pouvoir s'amuser, pouvoir sortir. Même aller au baptême de nos cousines, de nos cousins, on ne pouvait pas. On aurait vraiment aimé avoir cette chance-là. Donc, je vous en prie, les douleurs pendant les règles, c'est le premier signe, c'est le premier des symptômes de l'endométriose. Ce n'est pas normal. Avoir les règles, c'est normal. Mais avoir mal pendant les règles au point où ça ne passe pas avec du paracétamol, ce n'est pas normal. Des règles qui font du bruit, ce n'est pas normal.
Merci Nadège. Malheureusement, on est arrivé à la fin de ce numéro. Merci pour ce moment de partage. Chers tous, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Les douleurs pendant les règles, ce n'est pas normal. Si vous avez une fille, une sœur, quelqu'un de votre entourage qui a des douleurs terribles au point d'être invalidante pendant les règles, ce n'est pas normal. Il serait peut-être bien de consulter pour savoir. Ça pourrait être de l'endométriose. Merci d'avoir suivi ce numéro. Si vous l'avez apprécié, partagez-le avec vos proches pour les sensibiliser eux aussi sur l'endométriose. Vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de la Radio Jenin. Retrouvez-moi les premiers et les derniers jeudis du mois à partir de 10h sur la Radio Jenin. Et si vous souhaitez partager avec nous une expérience ou une maladie ou quelque chose que vous traversez, contactez la radio sur le +228 90 13 89 94 et parlons-en dans les mots comptés. Oui, parler, ce n'est pas une obligation, mais c'est certainement une option puissante. Je suis Délivrance T et je vous dis à très vite.